Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Saint-Siège invite à prier pour la fin du conflit en Syrie et pour que tous les peuples du Moyen-Orient puissent connaître la paix. Alors que l'on est toujours sans nouvelles d'un jésuite italien et de deux évêques orthodoxes, la Syrie où un conflit interne déchire l'opposition au régime, nous analyserons la situation dès le début de ce magazine. L'Italie sous les décombres d'une classe politique en décomposition, le gouvernement de coalition est menacé, un scénario qui inquiète le Saint-Siège et l'Église catholique italienne. Dans ce magazine, nous évoquerons par ailleurs, le drame des demandeurs d'asile en Australie. Et en fin d'émission, ne manquez pas les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Une émission enregistrée samedi en début de soirée. Le Saint-Siège a exprimé sa préoccupation au sujet d'un jésuite, le père Paolo Dall'Olio, porté disparu en Syrie, et de deux évêques orthodoxes syriens enlevés il y a plusieurs semaines. Dans un communiqué, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales et ses principaux collaborateurs expriment leur proximité dans la prière au supérieur général et à tous les religieux de la Compagnie de Jésus, alors que l'incertitude persiste au sujet du sort du père Dall'Olio. Avec les églises de la région, le cardinal Leonardo Sandri évoque par ailleurs le silence absolu qui entoure le sort de deux évêques et de deux prêtres enlevés il y a des mois, ainsi que de tant d'autres Syriens ou étrangers qui se trouvent dans la même condition douloureuse. Selon ses amis, le père Dall'Olio, dont on a perdu les traces depuis lundi, pourrait avoir été enlevé lui aussi. Le délai donné par le jésuite italien pour que ses amis lancent l'alarme a expiré vendredi matin. Des activistes avaient affirmé que le silence du père Dall'Olio était lié à sa tentative secrète de médiation entre Kurdes et islamistes dans le nord de la Syrie, une nouvelle fractures entre opposants au régime de Bachar el-Assad. Selon un de ses amis, il serait entre les mains du groupe islamiste État islamique en Irak et au Levant, lié à Al-Qaïda. La rébellion syrienne est en train de dégénérer en conflit interne entre factions rivales. Ces violences entre Kurdes et islamistes ont débuté il y a environ deux semaines. Les Kurdes ont dans un premier temps réussi à chasser les islamistes de plusieurs secteurs. Mais ces derniers ont riposté par des attaques contre des villages kurdes et par une vague d'assassinats de dirigeants de cette communauté qui représente 15% des Syriens. L'ouverture de ce nouveau front risque de plonger cette région jusque-là épargnée dans la guerre civile. Alors quel est le positionnement des Kurdes dans le conflit qui oppose le régime de Bachar el-Assad aux forces d'opposition? Écoutez l'analyse de Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste de géopolitique au Moyen-Orient.
Les Kurdes souhaitent, comme un peu partout, on l'a vu en Irak ces dernières années, être autonomes. D'abord parce qu'ils parlent kurde, ils ne parlent pas arabe. D'autre part, ils ont leur propre tradition, leurs représentations historiques, en général leur territorialité plutôt montagnarde, etc. Et deuxième raison pour laquelle ils souhaitent être autonomes, c'est qu'en général, en Iran, en Irak, surtout en Irak, mais même en Syrie, ils ont pratiquement toujours été méprisés, voire spoliés, pourchassés, etc. Donc là, on est sur une volonté évidemment de rompre avec le régime de Bachar el-Assad, ça c'est évident à comprendre, mais plus compliqué, les Kurdes souhaitent être autonomes et en même temps ne pas intégrer une opposition globale, donc évidemment majoritairement arabe en Syrie, qui du coup, après une éventuelle victoire contre Assad, les laisserait dans une situation finalement guère meilleure que celle qui prévalait avec Bachar el-Assad. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont très autonomistes, mais évidemment ça ne plaît pas à l'opposition syrienne unie, unie entre guillemets, et surtout pas aux islamistes radicaux. Parce que ces islamistes radicaux considèrent que les Kurdes n'en font pas assez. Et effectivement, en général, les populations kurdes de Turquie, d'Irak, d'Iran ou de Syrie sont assez défavorables, voire très défavorables, à un islam trop conservateur.
Donc une réelle volonté d'être de plus en plus autonome. Peut-on imaginer la création d'une zone autonome à l'image de ce qui s'est passé en Irak?
La réponse est oui, et j'ai même envie de vous dire que les Kurdes sont en train, semaine après semaine, de la constituer, aux grandes dames d'ailleurs, donc du reste de l'opposition syrienne arabe, avec quand même une difficulté géographique. Le Kurdistan syrien est plus morcelé géographiquement que le Kurdistan irakien. Un vrai morcellement, et par conséquent, ce sera plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, on y arrivera quand même. Hein. On y arrivera à cette autonomie des Kurdes.
Interrogé par Hélène Destombes, Frédéric Ancel, auteur de l'ouvrage « De quelques idées reçues sur le monde contemporain » à paraître dans une semaine. L'Église catholique a exprimé sa solidarité avec les immigrés et les demandeurs d'asile suite aux accords controversés conclus par l'Australie avec des États insulaires du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'île de Nauru, un des plus petits pays du monde. L'Australie s'est engagée à verser une aide financière à ces pays en échange de l'accueil d'immigrés, une manière en quelque sorte d'exporter le problème. Olivier Bonnel.
Plus de 15 000 demandeurs d'asile sont arrivés par bateau depuis le début de l'année en Australie. L'Iran est le principal pays d'origine des boat people qui passent par l'Indonésie. Les autres viennent d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan ou du Sri Lanka. Parmi eux, des familles et des enfants non accompagnés. Canberra a affirmé avoir pris la décision d'expulser les demandeurs d'asile pour, entre autres, décourager les passeurs et mettre un terme aux naufrages meurtriers dans les eaux houleuses du Pacifique. Mais ces accords interviennent quelques semaines avant la tenue d'élections législatives en Australie, alors que l'opposition accuse le gouvernement de ne pas protéger les frontières du pays. Reste que cet arrangement régional de réinstallation soulève de sérieuses questions en matière de sécurité. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, l'afflux de candidats à l'immigration sur les petites îles du Pacifique risque de déstabiliser le tissu social de ces territoires, déjà confrontés à un taux de chômage élevé et à de graves lacunes en termes de structures de santé et d'éducation. La conférence des évêques de Papouasie a lancé un appel en faveur d'une solution humaine, tandis qu'une association de jeunes catholiques australiens tire la sonnette d'alarme au sujet de la situation des enfants actuellement enfermés dans les centres de rétention qui, selon certains défenseurs des droits de l'homme, s'apparenteraient à des goulags.
Au Vatican, le pape François a nommé secrétaire de la commission Ecclesia Dei Mgr Guido Pozzo, jusqu'ici aumônier pontifical. Éminent théologien proche de Benoît XVI, Mgr Pozzo connaît bien ce dossier délicat, puisqu'il a déjà occupé cette charge de juillet 2009 à novembre 2012. Rattachée à la Congrégation pour la doctrine de la foi, cette commission a pour mission de faciliter la réconciliation avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et la communion ecclésiale de ceux qui désirent rester unis au pape dans l'Église catholique tout en conservant leur tradition spirituelle liturgique. Le nouvel aumônier de sa sainteté est un cérémoniaire polonais, Mgr Krajewski, qui faisait partie du bureau des célébrations liturgiques. L'aumônerie apostolique vient en aide au nom du Saint-Père à ceux qui sont dans le besoin par de petits gestes quotidiens, dans le silence et la discrétion, en payant des quittances, des loyers, des soins médicaux, une charité quotidienne que les papes pratiquent depuis toujours pour exprimer la proximité de l'Église avec les populations les plus fragiles. Nul doute que le pape François renforcera cette fonction. Le Vatican redoute une chute du gouvernement italien dont les conséquences seraient imprévisibles. Par la voix de son quotidien, l'Osservatore Romano, il avertit que les difficultés économiques auxquelles la population italienne est confrontée ne permettent pas de saut dans le vide. La condamnation définitive de Silvio Berlusconi à une peine de prison pour fraude fiscale dans le scandale Mediaset met sérieusement en péril la coalition gauche-droite. Vendredi soir, les parlementaires de son parti, le Peuple de la Liberté, ont opté pour la ligne dure. Ils ont remis leur démission en signe de protestation contre ce verdict. Thomas Chabol.
Il faut éviter à tout prix une crise gouvernementale, avertit le journal du Saint-Siège, qui déplore ce nouveau rebondissement dans un conflit qui dure depuis près de 20 ans et qui tient en échec non seulement la vie politique, mais aussi la croissance économique du pays. Cette situation, l'Italie l'a payée cher du point de vue éthique et juridique, ajoute le quotidien. Les institutions démocratiques ont tenu le coup, tant bien que mal, mais le concept de légalité s'est estompé dans les consciences et les comportements de nombreux Italiens. L'Osservatore soutient l'appel du chef de l'État au respect de la magistrature et de son indépendance et se prononce en faveur d'une réforme de la justice. De son côté, l'agence de presse des évêques italiens estime que le combat contre Silvio Berlusconi doit se faire sur le terrain politique. Or, dans une démocratie, les élections constituent la seule arme licite. L'agence demande au Cavaliere de faire un geste vertueux de responsabilité politique. En décembre dernier, le cardinal Bagnasco avait dénoncé les scandales à répétition qui secouent la classe politique et l'irresponsabilité de certains dirigeants. Favorable au gouvernement de techniciens de Mario Monti, le président de la conférence épiscopale italienne avait déploré la crise culturelle et morale qui touche l'Italie et déclaré que la maison brûlait encore.
Le chef du gouvernement italien, le démocrate de gauche Enrico Letta, a lancé des appels pressants à l'apaisement dans une phase critique pour le bien du pays et l'intérêt général. Mais l'aile gauche de sa formation rechigne à prolonger une alliance contre nature avec un parti de droite dirigé par un repris de justice. Tandis tandis que Silvio Berlusconi a relancé l'idée d'élections anticipées pour vaincre. Pour certains, son ère est achevée, pour d'autres, il est capable de rebondir. Le procureur du Saint-Siège a transmis une demande de commission rogatoire à la justice italienne dans le cadre des enquêtes contre Mgr Nunzio Scarano, arrêté le 28 juin à Rome. Le prélat, ex-chef de la comptabilité de l'APSA qui gère le patrimoine du Saint-Siège, est soupçonné d'avoir servi d'écran pour des virements suspects effectués à travers des comptes bancaires de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion. Il aurait notamment rapatrié de Suisse 20 millions d'euros issus d'une fraude fiscale pour une famille d'armateurs napolitain. Dans l'avion qui le ramenait de Rio à Rome, le pape François avait estimé devant les journalistes que ce monseigneur allait rester en prison. Reprenons aujourd'hui le fil de nos rediffusions estivales et dans le cadre de notre rubrique hebdomadaire « Livre pour Dieu », je vous propose de réécouter un entretien diffusé début avril. Alors qu'Assise vient de célébrer la fête des indulgences, nous avons en effet choisi un livre sur François d'Assise, « L'insoumis de Dieu ». Dan Boringaël, interrogé par Catherine Aubin, nous emmène dans sa découverte intense et fascinante du saint et frère universel. La douceur d'aimer est l'une des clés de lecture de son très bel ouvrage « Un roman historique pour tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant.
Dan Boringaël, le titre de votre livre, François d'Assise, l'insoumis de Dieu. Quels sont les aspects de François qui vous ont tout de suite paru comme des phares sur lesquels il fallait construire votre roman ?
Tout d'abord, ce que j'ai donné comme titre, l'insoumission, mais l'insoumission prise comme une qualité. Bon, il y a chez saint François une interrogation continuelle par rapport à lui-même, par rapport à sa société, sa famille, et puis après ses choix. Il est amené aussi à une prise de conscience, mais qui est tellement proche de la nôtre parce qu'elle est progressive. Il se trompe, c'est aussi un personnage qui m'a paru tellement passionné, tellement expansif et tellement exubérant également. Quand il reçoit le message dans l'église Saint-Damiano, il faut reconstruire ma maison parce qu'elle est toute en ruine. Bon, ben, il regarde le toit et si oui, ça c'est vrai, je dois réparer le bâtiment et puis il va chercher des sous dans la caisse de son père. Après, il y a cette prise de conscience de sa grande mission spirituelle et je trouve que c'est cette humanité-là. On a d'abord l'impression de faire une première lecture de la vie de François.
François cherche François.
Tout à fait. Au fond, il y a des strates, il y a des couches de prise de conscience. François aurait pu aussi être comme beaucoup de ses contemporains. Et puis, finalement, de cette personne, on va dire, tout à fait ordinaire par rapport à son temps, s'est détaché un autre François, le François spirituel. Comme si, d'une personne, on avait d'abord les valeurs matérielles, tout ce qui était facile et confortable, et puis, après, cette exigence qu'il a dû faire de lui-même, et il a dû renaître de lui-même sur le plan spirituel. Il a dû sortir de lui-même. Et c'est pour ça qu'il s'est détaché de tout.
Comment avez-vous compris et perçu à ce point la personnalité de François ?
Je crois que le fait qu'il soit universel, il permet à chacun d'avoir la même interrogation et la même expérience. Je ne dis pas que nous allons arriver au même résultat parce que lui est un personnage extraordinaire, mais tout le monde peut faire cette démarche en disant « voilà, j'ai une vie, j'ai un destin, mais je dois exiger de moi-même de devenir plus moi-même ». Plus quelqu'un et de pouvoir aussi sublimer mes possibilités, mes qualités pour les offrir aux autres aussi, comme il l'a fait. Je pense que c'est important justement de pouvoir témoigner de ce travail personnel qu'on fait de soi et cet accouchement qu'on fait de soi-même. On se donne une deuxième naissance qui est une naissance spirituelle et je pense que c'est ça qui m'a probablement envoûtée, si je peux dire, c'est de me dire tiens, la vie. C'est une chose, tout est donné, mais je vais sortir à l'exemple de François. Je dois sortir, c'est cette obligation aussi qui arrive et qui arrive peut-être, qui arrivera peut-être aussi à certains lecteurs, puisque je l'ai ressenti. Il y a peut-être une chaîne qui se forme aussi, une chaîne de prise de conscience. J'ai reçu en héritage les sentiments et l'intimité de non seulement de François, mais du monde qu'il avait créé, de Chiara, de Bernard, je trouve, qui est éblouissant d'émotion, Pierre de Catane aussi, qui abandonne le savoir pour simplement aimer et réapprendre le langage des oiseaux. Je pense que ça, on ne peut jamais s'en séparer. Je remercierai François.
Le livre de Dan Borin-Gaël, François d'Assise, L'insoumis de Dieu, est publié aux éditions Fidélité. L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 4 août, le 18e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses.
L'évangile de ce dimanche nous parle d'un homme qui pose à Jésus la question suivante. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répond « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» En premier lieu, ce récit nous apprend qu'il est possible parfois de se tromper sur le sens de la venue de Jésus parmi nous. Jésus n'est pas là pour régler des litiges à notre place, mais pour nous donner la vie éternelle. Bien sûr, Jésus s'intéresse et s'occupe de notre quotidien. Mais c'est notre devoir personnel de mener à bien nos tâches et d'apprendre à vivre ensemble. L'homme doit en effet assumer ses responsabilités, s'engager, afin que le Seigneur puisse bénir son travail et lui donner de porter du fruit. Jésus profite cependant de cette question pour donner un enseignement sur la richesse. Il propose la parabole suivante. Un homme riche voit ses terres lui rapporter beaucoup. Ne sachant que faire devant une telle récolte, il décide de démolir ses anciens greniers et d'en construire de plus grands. Puis il se dit à lui-même « Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence ». De cet homme, Dieu dit qu'il est fou. C'est la richesse qui l'a rendu fou. La parabole explicite trois caractéristiques de cette folie. Tout d'abord, la richesse donne l'illusion qu'un bonheur complet peut être trouvé sur cette terre. L'homme riche pense aux nombreuses années qui l'attendent et il se dit que celles-ci seront faites de plaisir et de réjouissance en raison de son immense fortune. Toutefois, ces années, aussi nombreuses puissent-elles être, auront une fin. La richesse fait oublier que nous ne sommes que de passage sur terre et qu'une autre patrie nous attend. L'Épître aux Hébreux appelle cette patrie la patrie céleste. Pour elle, tout peut être sacrifié, ainsi que le montre la longue succession de témoins depuis Abel jusqu'à nos jours. Ensuite, la richesse fait oublier que la vie est un don que Dieu fait et que ce don peut prendre fin à tout moment. Dans la parabole, Dieu dit à l'homme riche « Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ?» Cet enseignement est fort. Il nous rappelle que nous sommes appelés à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, car ce sera peut-être le dernier. Célébrer chaque Eucharistie comme si c'était la dernière. Pardonner à ceux qui nous ont offensés comme si c'était le dernier jour qui nous était donné pour le faire. Se donner à ceux que l'on aime comme si c'était notre ultime chance de leur manifester notre amour. Il n'est pas rare que le regret, ou plutôt le remords, torture ceux qui ont refusé lorsque c'était encore possible un acte de charité ou un acte de pardon. Le baptisé est celui qui vit chaque jour, comme si c'était le dernier, car le Christ peut venir à tout moment. Saint Paul dira que le soleil ne se couche sur ta colère. Enfin, la richesse rend fou, car elle fait oublier que nous sommes appelés à amasser un trésor pour le royaume du ciel et non celui de la terre. Saint Paul parle d'une légère tribulation d'un instant qui nous prépare, jusqu'à l'excès, une masse éternelle de gloire. Que pouvons-nous faire aujourd'hui qui nous rendra riches dans le royaume? Voici la question qui se pose à nous en ce dimanche.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission enregistrée samedi en début de soirée. Mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.